Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 17 mai 2022 avec vous Eric Manirakiza. D'abord le sommaire. Au Mali, la junte annonce avoir déjoué une tentative de putsch. Plusieurs sous-officiers sont aux arrêts. Au Nigeria, le contrôleur général des finances arrêté pour détournement de fonds. Le président Joe Biden dénonce à Buffalo un massacre raciste qui a coûté la vie à 10 Africains américains. Moscou annonce la reddition de 265 combattants de Mariupol, tandis que Kiev parle d'échanges. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, le gouvernement a annoncé hier lundi avoir déjoué une tentative de coup d'État. Le communiqué affirmait que cette tentative était soutenue par un pays occidental. Plus de détails avec notre correspondant au Mali, Mohamed Danioko.
Dans un communiqué lu à la télévision nationale hier soir, les autorités maliennes affirment qu'une tentative de coup d'État avec la complicité d'un pays occidental a été déjouée dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Selon le communiqué, il s'agit d'un groupuscule d'officiers et de sous-officiers. Dans sa livraison du jour, le quotidien, l'indicateur du renouveau, affirme que plus de 7 officiers ont été arrêtés, alors que, sur son compte Twitter, le journaliste Wassim Nastre indique qu'un colonel, membre du Conseil national de transition, a été arrêté. Il évoque aussi l'arrestation, le 7 mai dernier, de Baba Ag Ahmeida, membre de la coordination des mouvements de la Zawad. Cette dernière arrestation a été confirmée par Mohamed Ag Ataye, membre de la CMA, sur son compte Facebook. Plusieurs arrestations seraient toujours en cours et les autorités ont promis que les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Les choses ne semblent pas se calmer au moment où l'espoir renaît avec la médiation togolaise pour trouver un accord avec la CEDEAO et proposer un chronogramme des élections permettant d'alléger ou lever les sanctions. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
La France a regretté mardi le départ du Mali du G5 Sahel en estimant que cette décision va compromettre les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme et traduisait l'isolement de la junte au pouvoir à Bamako. Après le départ annoncé du Mali, l'organisation régionale sahélienne, créée en 2014 et dont la force est composée d'environ 5000 militaires depuis 2017, est actuellement réduite à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Par ailleurs, les pays membres de l'Union européenne engagés au Mali vont retirer une partie de leurs effectifs engagés dans la mission de formation militaire. Après l'arrêt de ces activités, a annoncé mardi le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell. Les départs se feront de manière coordonnée, a-t-il insisté. Un des principaux responsables de la coalition de l'opposition au Tchad, qui a organisé samedi une manifestation contre la France qui l'accuse de soutenir la junte militaire, a été arrêté mardi, a indiqué la police et son mouvement. Cette station d'essence du groupe pétrolier français Total avait été vandalisée et 12 policiers blessés, selon la police. Les opérations pour tenter de retrouver 8 mineurs portés disparus sous terre dans une mine de zinc du Burkina Faso depuis un mois se poursuivent sans grand espoir qu'ils puissent retrouver les vivants. Des équipes de sauvetage ont atteint mardi la deuxième chambre de refuge à la mine de Perkoa qui est vide, ont annoncé les ministres des Mines et du Travail aux familles. En réunion d'urgence au commissariat de Réo, le QG de la cellule de crise. Le comité de gestion de la crise est en concertation d'urgence et le gouvernement suit de près la poursuite des opérations sur le terrain, précise le gouvernement. Au Nigeria, arrestation du contrôleur général des finances publiques. Il est accusé d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics d'environ 80 milliards de naira, soit 184 millions d'euros. C'est ce qu'annonce la commission des crimes économiques et financiers dans un communiqué publié lundi soir. Le point avec Nani Tetalani.
L'agence anticorruption accuse Ahmed Idriss, responsable administratif du Trésor public nigérian depuis 2015, d'avoir soutiré des fonds par le biais de fausses sociétés de conseil et d'autres activités illégales en utilisant des mandataires, des membres de sa famille et des associés proches. Selon la commission, ces fonds ont été investis par M. Idriss dans des biens immobiliers à Abuja, la capitale, et dans son état natal de Kano, dans le nord du Nigeria. Après plusieurs convocations sans succès, Ahmed Idriss a été arrêté lundi. Il doit répondre des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Son prédécesseur, Jonah Ogoni Otunla, a été limogé par le président Muhammadu Buhari pour un détournement présumé de 2,5 milliards de naira des fonds des agences de sécurité. Créée en 2003, l'agence anticorruption a obtenu une série de condamnations très médiatisées de ministres, de gouverneurs d'État, de hauts fonctionnaires et de personnalités politiques de premier plan. L'année dernière, cette agence a déclaré avoir récupéré près de 714 millions d'euros. Mais les détracteurs du président Buhari l'accusent de mener une chasse aux sorcières contre les opposants du chef de l'État.
Le Togo a rouvert mardi ses frontières terrestres avec le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso, fermées depuis plus de 2 ans à cause de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le gouvernement. Les forces ougandaises présentes en RDC dans le cadre d'une opération conjointe contre le groupe rebelle ADF doivent se retirer au 31 mai, sauf nouvel accord entre les deux pays, ont annoncé mardi des responsables militaires ougandais. Le nouveau président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a remercié mardi son homologue américain Joe Biden pour avoir décidé de rétablir une présence militaire en Somalie afin d'y combattre les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. Le chef du gouvernement libyen soutenu par le maréchal Khalifa Haftar s'est retiré mardi de Tripoli après avoir tenté de déloger l'exécutif rival en place. Les affrontements entre milices rivales ont débuté dans la nuit après l'arrivée à Tripoli du premier ministre désigné par le Parlement siégeant dans l'est du pays, Fatih Bachaga, accompagné de plusieurs ministres.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden en visite à Buffalo dans l'État de New York qualifie de poison la théorie du suprémacisme blanc après une fusillade qui a fait 10 morts et 3 blessés dans un supermarché samedi. Il est venu pour, dit-il, partager le deuil et apporter du réconfort aux familles de victimes. Le point avec Abdulrahman Dia.
Joe Biden a déclaré que le silence n'est plus une option face à la montée de l'extrémisme et du racisme. Le président Biden qualifie ce massacre de terrorisme motivé par une idéologie haineuse et perverse, une idéologie qui, selon lui, déchire l'âme des États-Unis. Arrivé dans cette ville de l'extrême nord de l'État de New York, le président Biden et son épouse ont rendu hommage aux victimes en déposant une gerbe de fleurs devant le supermarché où un jeune extrémiste a commis son forfait avant d'être arrêté. La majorité des victimes sont des Noirs. L'organisation Gun Violence Archive décompte déjà cette année plus de 200 fusillades de masse au cours desquelles 4 personnes au moins ont été blessées ou tuées pour chaque fusillade. L'attaque de ce week-end est perpétrée par un jeune homme blanc qui, avec son fusil d'assaut, a conduit pendant 4 heures pour se rendre dans cette partie de la ville de Buffalo, habitée majoritairement par des Africains-Américains. Avant le massacre, Peyton Gendron a publié un texte de 180 pages où il se définit lui-même comme fasciste, raciste, antisémite et se réclame de la théorie complotiste du grand remplacement.
Moscou annonce la reddition de 265 soldats ukrainiens qui étaient retranchés dans la Syrie Azovstal, ultime poche de résistance à Mariupol. Kiev évoque un prochain échange de prisonniers. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Au cours des dernières 24 heures, 265 combattants ont rendu les armes et se sont constitués prisonniers, dont 51 gravement blessés, déclare le ministère russe de la Défense dans un communiqué. L'échange de ces soldats sera réalisé pour rapatrier ces héros ukrainiens le plus rapidement possible, indique de son côté le ministère ukrainien de la Défense. La vice-première ministre ukrainienne, Irina Verechuk, a évoqué un échange qui concerne uniquement 52 militaires grièvement blessés. Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi avoir instauré un cessez-le-feu autour du complexe sidérurgique d'Azovstal. La semaine dernière, Kiev a affirmé que plus de 1000 soldats ukrainiens, dont 600 blessés, se trouvaient dans ce complexe industriel. La prise totale de Mariupol, ville stratégique sur la mer d'Azov, va permettre à Moscou de contrôler la bande de territoire allant de la péninsule de Crimée, annexée en 2014, au territoire du Donbass dans l'Est, déjà aux mains de séparatistes pro-russes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Rosine Munezero.
Au Kenya, les autorités viennent de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la vente des avocats à un stade précoce, rapporte l'agence Ecofin. Selon l'autorité de l'agriculture et de l'alimentation, les variétés As et Fuerte destinées à l'exportation devront désormais afficher un taux minimal de matière sèche de 24%. Un tel seuil permettra de s'assurer de la bonne maturité de ce fruit et garantir sa conformité aux exigences du marché international. Des centaines de milliers de tonnes de blé sont toujours bloquées dans un grand port indien en raison de l'interdiction d'exporter la céréale par New Delhi. L'Inde affirme que cette interdiction est destinée à assurer la sécurité alimentaire du pays, qui compte 1,4 milliard d'habitants. Les ministres de l'agriculture du G7 ont aussitôt critiqué la décision indienne, qui est aussi un allié de Moscou, craignant de voir s'aggraver la crise mondiale des matières premières. Le patron de Tesla, Elon Musk, a indiqué mardi que le rachat de Twitter ne parviendra pas à son terme tant qu'il n'y aura pas la garantie que moins de 5% des comptes sur la plateforme sont des faux. Il a également estimé que les faux comptes représentaient au moins 20% des utilisateurs de Twitter.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yakuba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Sao Tomé et Principe exclus de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023.
L'équipe de Sao Tomé et Principe est accusée d'avoir enfreint le règlement Covid-19 de la CAF en alignant un joueur inéligible lors du match du 24 mars 2022 entre Maurice et Sao Tomé lors des éliminatoires à la CAN 2023, déclare l'instance africaine du ballon rond. La CAF explique que le joueur concerné ne s'est pas soumis au test PCR obligatoire d'avant-match et n'a pas fourni aux officiels un résultat de test PCR effectué dans la fenêtre de 72 heures requise pour participer au match. Sao Tomé et Principe a donc été disqualifié par la CAF et devra en outre s'acquitter d'amende de 10 000 $. Les Sao Toméens avaient pourtant arraché leur qualification sur le terrain en battant l'île Maurice lors du tour préliminaire 1-0 à l'aller, 3-3 au retour. Cette disqualification fait l'affaire de l'île Maurice qui est repêchée pour rejoindre la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Nigeria dans le groupe A.
Toujours en football, l'Éthiopie ne jouera pas à domicile contre l'Égypte, Yakuba.
C'est le site en ligne Africa Top Sport qui le mentionne. La raison, la non-homologation du stade de l'Éthiopie par la CAF. Les Éthiopiens recevront donc les Pharaons au Malawi lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, annonce la Fédération Malawite de football. Le stade national de Bingu accueillera l'affrontement entre l'Éthiopie et l'Égypte lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, précise un communiqué de l'instance malawite du ballon rond. L'Éthiopie figure dans le groupe D des éliminatoires de la CAN 2023 en compagnie de l'Égypte, de la Guinée et du Malawi.
Football féminin à présent, la Nigériane Asisat Oshoala décroche le soulier d'or en Espagne.
L'international nigériane du FC Barcelone a remporté le soulier d'or de la Primeira Iberdrola, le championnat d'élite féminin de football. La quadruple joueuse africaine de l'année a inscrit 20 buts en seulement 12 titularisations sur les 19 matchs du championnat féminin espagnol, soit le même nombre de buts que la brésilienne Guise de Madrid CF, Aziza Oshoala, championne d'Espagne cette année avec les Catalanes, est désormais la première femme africaine soulier d'or d'Espagne.
Enfin, du cyclisme, et Biniam Girmay, qui remporte la 10e étape du Giro, entendez le Tour d'Italie.
L'Érythréen de l'équipe belge Intermarché a devancé au sprint le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui a levé le pouce en franchissant la ligne pour saluer la performance du jeune Africain. Binyam Djermi, 22 ans, participe pour la première fois de sa carrière au Giro.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Dans trois...
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manelakiza, place au dossier du jour. Au Sénégal, dans la ville de Louga, à environ 220 km au nord de Dakar, le manque d'emploi touche de plein fouet les jeunes. Face à l'absence de perspectives, les mototaxis sont devenus la profession de choix pour la majorité des jeunes. Reportage à Louga de Seydina Abagay.
Sous le chaud soleil, des jeunes assis sur leur moto attendent des clients pour des courses qui rapportent entre 200 et 500 francs CFA. Ici, ne pas travailler n'est pas une option. Gorfay, mécanicien de formation, s'est tourné vers le métier de Jakartamen, conducteur de moto, en attendant de trouver un emploi.
On est des jeunes et on veut travailler. Être conducteur de Jakarta n'est qu'un passe-temps. Moi qui vous parle, j'ai une profession, mais la moto Jakarta est juste un emploi de transition qui me permet de subvenir à mes besoins.
Pour d'autres comme Maguette Sek, les mototaxis sont une source de revenus supplémentaires.
Moi, je sais peindre. Bâtiment.
Moi, je suis peintre en bâtiment, mais en même temps, agent de sécurité et en tant que vigile. Mais je ne m'en tiens pas à ça, parce que le Sénégal est un pays difficile, surtout pour nous les pères de famille. On s'adonne à la conduite de moto Jakarta pour pouvoir satisfaire nos besoins, sans tendre la main à personne.
Les jeunes conducteurs de mototaxi disent également ne pas sentir le soutien de la municipalité. Papsa Mandiaye estime que les autorités ne font pas d'efforts à leur égard.
2 ans et poussière sur les Jakarta, mais...
J'ai fait 2 ans dans les motos Jakarta, mais j'ai jamais vu la mairie poser un acte pour aider les jeunes conducteurs de Jakarta. Mais si, il se peut que cela existe, mais moi, je ne l'ai jamais vu et beaucoup de jeunes peuvent en témoigner.
Du côté des autorités locales, on affirme qu'il y a eu des réflexions pour trouver des alternatives aux jeunes, notamment dans l'agriculture et l'élevage, sans succès pour le moment. Ismaël Fall est adjoint au maire de Louga.
Sur le plan de l'agriculture, nous aussi, on a un problème. Même si nous avons eu un projet aujourd'hui, on a des problèmes de foncier. La mairie de Louga est une mairie qui est, sur le plan foncier, une mairie déjà qui est presque épuisée sur le plan foncier. Il n'y a plus de possibilité de donner des terres aux jeunes pour faire de l'agriculture parce que c'est une grande ville moderne. Peut-être que maintenant, il y a d'autres villes avec maintenant la communication universelle. Il y a les communes qui sont autour de, n'est-ce pas, ces communes banlieues, si je peux les appeler ainsi, qui effectivement aujourd'hui qui possèdent des terres, qui peuvent peut-être effectivement, dans le cadre de l'intercommunalité, permettre aux jeunes locataires de pouvoir délocaliser des projets et des programmes d'agriculture pour les mettre, pour les amener là-bas.
Les autorités pensent cependant à relancer la Soteca, une société textile de la zone qui permettra de créer 1 millier d'emplois. La mairie compte également sur le programme d'emploi des jeunes lancé par le chef de l'État. En attendant une solution, le nombre de Jakarta à Louga exprime mieux que n'importe quel sondage le chômage et le désespoir des jeunes de ce pays.
Au Togo, le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement agissent sur l'écosystème de la mer et des lacs du pays. Au sud-est du pays, le lac Bokozola a perdu plus de la moitié de sa surface en une trentaine d'années. Les conséquences sur la vie des populations sont diverses. Le gouvernement tente de sauver les meubles à travers un projet de restauration de la biodiversité autour du lac. Reportage de notre correspondant au Togo, Kossi Wusu.
À l'ombre d'un arbre devant la maison royale du village d'Anirankope dans le sud-est du Togo, Akapovisa a la nostalgie du temps où il faisait bon vivre dans sa localité. Pour lui, ce lac Bokozola qui borde son village était une providence.
Avant, une petite partie de pêche sur le lac fournissait assez de poissons pour les familles. Aujourd'hui, le lac ne donne plus rien.
Sous l'effet des coupes massives de la mangrove et de l'envasement, la superficie du lac Bokozoula s'est réduite au fil des années. Plus de 7800 km² en 1986, elle s'est réduite à quelque 3000 km en 2013, soit une perte de 60%. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Mona Anani, un jeune du village d'Agnirankopé.
Pour ceux d'entre les jeunes, comme moi qui ne sont pas allés loin dans les études, c'était la pêche qui était notre activité principale et notre salut dans le village. Depuis que le lac est devenu pauvre en ressources, beaucoup de jeunes sont partis vers le Nigeria.
Et si rien n'est fait, le lac Bokozoula risque de disparaître. Un programme du gouvernement togolais, appuyé par la Banque mondiale à travers le projet Wakarecip, est initié pour la sauvegarde du patrimoine naturel et la restauration de la biodiversité autour du lac Bokozoula. Le directeur préfectoral de l'environnement, le commandant Nayabi Nunja, fait le suivi contrôle trimestriel de l'exécution des travaux. Il précise que plus de 100 hectares des berges sont déjà reboisées.
Ici également, depuis beaucoup jusqu'à Agnirankopé, il n'y a pas que les mangroves qui ont été mises en terre. Il y a beaucoup d'autres essences à croissance rapide, productrices donc de bois de feu qui ont été mises en terre. Et on a mis aussi en terre d'autres essences qui vont générer des revenus, telles que les cocotiers.
Pour préserver cette restauration de la mangrove, le projet a initié des activités génératrices de revenus pour les habitants, ainsi que l'installation d'une unité de transformation du manioc, la principale culture de la localité. Le coordonnateur adjoint du projet, Yao Komi, explique.
On va d'abord aider à pouvoir transformer facilement le manioc pour produire du gari, du tapioca, de l'éthanol, pour permettre aux paysans de tirer le maximum de profit de cette culture-là.
Et l'espoir renaît dans le village d'Agnirankopé. Les habitants s'impatientent de retrouver les multiples bienfaits de leur lac, mais cela prendra du temps. Kossi Moussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu en RDC, les ruines humaines sont devenues une matière précieuse pour les agriculteurs qui l'utilisent comme engrais organique. 20 litres se négocient actuellement entre 6 et 8 dollars américains. Une bonne affaire pour les jeunes qui investissent dans la collecte de l'urine. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
La pratique est beaucoup plus intense à Chacha, un village situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Goma. Olivier Maheche, un jeune homme de la région, y fait déjà son commerce.
J'avais d'abord reçu cette information. Puis, je me suis rendu compte qu'un de mes anciens collègues faisait partie des acheteurs d'urine humaine. J'avais cherché dans notre famille et parmi ceux qui ne le savaient pas encore, et j'ai réalisé 20 litres. Je les ai vendus à 12 000 francs. Et aujourd'hui, il me reste deux bidons que je garde et que je pourrai vendre à 15 000 francs le bidon dès que l'achat reprendra. Cette dernière fois, il y avait plusieurs fournisseurs. C'est pourquoi les caisses des acheteurs sont vides au début.
Pour obtenir un stock important, chaque membre de l'association qui achète de l'urine humaine est obligé d'apporter au moins 5 litres par semaine et la sensibilisation continue dans la communauté pour appeler les gens à venir vendre ces produits. Yves Chabouira, l'un des initiateurs de ces projets, explique.
Les membres de l'association, on les a recommandé que chacun puisse conserver au moins 5 litres puis ils l'amènent ça au bureau et nous on va stocker ça. Ça c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, on a un peu sensibilisé certains dans la communauté. Et puis, les gens là amenaient des 5 litres, et comme 5 litres, nous, on l'achetait à 3 000 francs.
L'urine est utilisée pour fertiliser les sols et tuer les insectes dans les champs, une pratique validée par les agronomes de la région qui estiment qu'elle n'est pas nouvelle. Eric Moussoubao est ingénieur agronome.
L'urine humaine, c'est un engrais naturel, et c'est une pratique très ancienne. Heureusement qu'elle est en train de revoir les jours. Vous savez que les plantes ont besoin des trois nutriments principaux, dont l'azote, le phosphore et le potassium. fermentation. Et vous comprendrez que dans un litre d'urine, il y a environ 6 grammes d'azote, 1 gramme de phosphore et 2 grammes de potassium. Donc, tous les éléments dont la plante a besoin se trouvent dans l'urine. À part ces éléments, l'urine est constituée aussi de 95% d'eau. L'eau n'a aucun effet négatif sur la plante.
Ces scientifiques congolais nous rappellent que les dangers ou l'importance de l'urine sur la plante dépend de son état, ce qui justifie la conservation pendant 30 jours des stocks faits par les agriculteurs des Chacha avant leur utilisation.
L'urine, si vous l'utilisez à l'état pire, donc si vous venez vous pissez sur une plante, normalement vous allez la brûler. Tout est question de dosage, donc il faut diluer l'urine. Il faut mélanger un peu de l'eau, mais aussi vous stockez l'urine jusqu'au moins minimum un mois. Ce temps de stockage va tuer le pouvoir acide de l'urine.
Actuellement, de nombreux agriculteurs expérimentent cette méthode dans les territoires de Masisi et se vantent des résultats, ce qui laisse penser que les prix du litre d'urine humaine pourraient augmenter. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, des retours des Chacha.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi et sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le président Joe Biden a dénoncé mardi à Buffalo le racisme qui a coûté la vie à 10 personnes africaines-américaines dans un supermarché. Ce massacre a été perpétré par un jeune homme blanc avec son fusil d'assaut. Avant le massacre, Peyton Gendron a publié un manifeste raciste de 180 pages où il se définit lui-même comme fasciste, raciste, antisémite et se réclame de la théorie complotiste du grand remplacement. Pour en parler, Nanit Talani a joint à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, Ruben Johannem, activiste pour les droits africains-américains.
La question sur un voyou, il est encore au lycée. Il est un suprématiste blanc. Il déteste les noirs en général. Donc il est passé à Buffalo. Il habite d'ailleurs à 3 heures de route de Buffalo, New York. Et il est passé à ce supermarché fréquenté par les Afro-Américains. Et il a commencé à faire feu.
Qu'est-ce qui peut expliquer cette fusillade?
C'est ce mouvement des suprématistes blancs ici aux États-Unis. Il y a cette fameuse théorie de remplacement. Donc, on est en train de pousser les idées pour voir si les Noirs ne parviendraient jamais à remplacer les Blancs. Parce que dans la démographie, les Blancs sont en train de devenir minoritaires maintenant, malheureusement. Donc, c'est une réaction à ça. Et tout ce qui s'est passé à Charlotte, en Caroline Sud, et plusieurs autres formes de survie encore qui ont eu lieu ici aux États-Unis, tout ça se passe dans le même cadre de cette peur bleue de la part de la population blanche, parce qu'auparavant, elles étaient majoritaires, mais ils sont en train maintenant de perdre leur place de groupe dominant et sont en train de réagir à ce problème.
Pourquoi le gouvernement américain a-t-il du mal à combattre ce genre de tragédie? Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Deux problèmes. Et il y a la faction conservatrice des Républicains et autres qui sont en train de se battre même contre le gouvernement fédéral. Et il y a aussi l'accès illimité aux armes à feu de la part de la population. C'est le fameux second amendement qui garantit le droit, le port d'armes à feu aux Américains. Là, c'est un problème compliqué qui n'est pas facile à résoudre parce que le Congrès américain, que ce soit les Républicains et les Démocrates, tout le monde essaie de ne pas piétiner le droit des gens ici aux États-Unis par rapport au corps des armes. Et malheureusement, ce sont les populations minoritaires qui sont victimes.
Le président Biden est allé à Buffalo pour rendre hommage aux victimes. Quel est le message qui peut se cacher derrière ce voyage?
C'est vraiment un geste pour pacifier un peu les esprits, mais le problème est à tout jamais irréductible parce que qui essaie de réduire le droit des Américains au port des armes à feu? Est-ce que c'est un problème qu'on peut résoudre dans les médias ou bien c'est compliqué? Sa présence est porteuse d'un message pour dire ben, nous comprenons, nous sommes là avec vous, retour, on va faire de notre mieux pour résoudre le problème. Mais c'est plus facile à dire, c'est pas tellement facile à réaliser.
Ruben Johannem, activiste pour les droits africains-américains aux États-Unis. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de cette édition. Joselle Morissin, Georges Léonard Sagnot et Michel Claire Joseph. À la présentation, je tiens en compagnie d'Eric Manilakiza. Festival au monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, votre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.